Bonjour à tous, bienvenue sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez tous les samedis entre 12h et 13h. Je ne sais même plus quelle heure il est. Ça devient... Peut-être que j'aille déjeuner d'ailleurs. 12h et 13h tous les samedis et le mardi entre 10h et 11h pour la rediffusion. Biotine, l'émission d'actualité scientifique sur graphite.net et sur le 94.9 pour ceux qui nous écoutent sur la bande FM. Je m'appelle Jean-Noël, je suis content de vous retrouver pour ce samedi 19 mars au niveau de l'actualité scientifique. Il y a pas mal de choses, on parlera d'énergie assez intéressant dans cette émission. On va commencer par l'éphéméride du 19 mars en 1932, l'inauguration du pont de Sydney en Australie. C'est le principal pont de traversée de la baie de Sydney qui permet le passage des trains, des automobiles et des piétons. Nous sommes en 1932. C'était entre le quartier des affaires et la rive nord de la baie. Et ce pont, on le connaît hein, parce que la vue du pont et de l'opéra qui est juste à côté, c'est assez emblématique de la ville et de l'Australie entière. Et donc ça a été inauguré le 19 mars 1932, il y a donc 90 ans. Plus proche de nous, il y a 3 ans, l'américaine Karen Uhlenbeck remportait le prix Abel et devient à ce titre la première femme à recevoir cette récompense. Alors le prix Abel, c'est l'une des deux plus prestigieuses récompenses en mathématiques avec la médaille Fields. Tous deux, ces deux prix sont considérés comme l'équivalent d'un prix Nobel de mathématiques, mais ça n'existe pas, le prix Nobel de mathématiques. Et donc, il y a eu le prix Abel et la médaille Fields. Et donc, il y a 3 ans, l'américaine Karen Uhlenbeck remportait, donc sa première femme qui remportait ce prix Abel. Naissance le 19 mars 1819 à Coblenz de Claude Ferdinand Mathieu. Il était un ingénieur français diplômé de l'école centrale de Paris, directeur des ateliers de construction de Schneider, où il a mis au point des méthodes de construction innovantes pour les ouvrages d'art. Et donc Ferdinand Mathieu va participer à la réalisation de plusieurs ouvrages importants, le viaduc de Fribourg, le pont tournant de Brest, la charpente également de la gare d'Austerlitz. Il est donc né un 19 mars 1819. Le décès le 19 mars 1950 de Walter Norman Haworth, chimiste britannique, connu notamment pour son travail sur la vitamine C. Il est lauréat du prix Nobel de chimie en 1937, donc Haworth, pour le travail sur la vitamine C. Il est né un 19 mars et il est mort un 19 mars. Comme ça, la boucle est bouclée avec lui, bien évidemment. On va parler d'énergie dans cette émission avec deux articles. Alors, le premier concerne les panneaux solaires. Selon l'Agence internationale de l'énergie, le solaire photovoltaïque est en train de devenir un peu partout dans le monde la solution de produire de l'électricité la moins coûteuse. De quoi donc envisager une explosion du marché, une explosion souhaitée par les experts de cette agence internationale de l'énergie pour nous aider à atteindre l'objectif du zéro émission nette d'ici 2050. Et pour cela, il faudrait multiplier par 5 le déploiement actuel de panneaux solaires. Et cela pourrait poser quelques problèmes de ressources. Beaucoup se sont pour l'heure interrogés quant aux réserves de silicium. Mais aujourd'hui, des chercheurs de l'université d'Australie soulèvent la question de l'aluminium, car le matériau sert à fabriquer les rails sur lesquels sont fixés les panneaux solaires, ainsi que les boîtiers des onduleurs notamment. Et donc les chercheurs estiment que les installations solaires photovoltaïques nécessiteront la production de presque 500 millions de tonnes d'aluminium d'ici 2050. Ok. Alors rappelons qu'en 2020, la production mondiale d'aluminium primaire était déjà de 65 millions de tonnes. Là, il en faut, c'était en expansion hein, par rapport aux années précédentes, et donc il en faudrait presque 500 millions, donc il y a une crainte d'une certaine pénurie. Mais ces chercheurs australiens se montrent plus préoccupés par le potentiel de réchauffement climatique porté par cette demande importante en aluminium, car cette industrie, elle est forte consommatrice d'électricité. C'est quand même assez extraordinaire, c'est-à-dire qu'on a besoin d'électricité pour pouvoir produire l'électricité, si on fait un schéma assez rudimentaire, bien évidemment. En 2018, le secteur à lui seul était responsable de 2% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Alors, si aucune précaution n'est prise, nous pourrions ainsi être amenés à libérer des tonnes vraiment importantes de dioxyde de carbone supplémentaire dans l'atmosphère d'ici 2050. Et donc du coup, la question c'est, est-ce que la croissance du marché des panneaux solaires photovoltaïques pourrait devenir une menace pour le climat ? C'est une vraie question, parce que si aucune précaution n'est prise Eh bien, parce que si ces énergies à faibles émissions sont utilisées pour alimenter les fonderies, bien le bilan pourrait être amélioré, bien évidemment. Tout comme il pourrait l'être avec la mise en place d'un recyclage systématique de l'aluminium, ce qui n'est pas le cas. C'est un processus qui est pourtant relativement simple et propre. Donc, il faudrait. Alors, ça existe, bien sûr, mais en tout cas, ce n'est pas mis en place à grande échelle. Et donc, il y a une vraie question qui se pose sur cette industrie qui est en pleine expansion, mais qu'il va falloir peut-être maîtriser. Parce que du coup, on essaye de résoudre un problème en créant le même problème, vous voyez, quelque part. Donc, ce sont des questions qui se posent, et notamment une alarme émise par cette Agence internationale de l'énergie. Sujet de l'énergie, on l'évoquera juste après Schrag sur l'antenne de Graphite. À tout de suite. Certain Violence, c'est Schrag sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez Biotine tous les samedis entre 12h et 13h pour vous tenir informés de l'actualité scientifique. On parle d'énergie dans cette émission. L'énergie, évidemment, c'est l'un des défis à résoudre. On aura besoin d'énergie, notamment d'électricité, parce que notre mode de consommation suit une explosion, on va dire, de la demande. Et donc, il va falloir résoudre justement un petit peu tout cela. Et pour l'instant, en tout cas à l'heure actuelle, la totalité de l'énergie nucléaire mondiale, notamment les centrales nucléaires françaises, eh bien, l'énergie nucléaire est basée sur le processus de fission nucléaire. C'est-à-dire qu'un noyau d'uranium, on va le scinder en particules plus petites et ça va libérer de l'énergie. Mais il y a une autre façon de produire de l'énergie nucléaire. Cette fois, c'est la fusion. C'est un processus selon lequel il y a deux atomes qui s'assemblent pour former un atome plus lourd. Et bien cette fusion se produit notamment au cœur des étoiles. Les recherches pour maîtriser la fusion comme source d'énergie, elles débutent dans les années 1950, mais la perspective de son utilisation industrielle reste éloignée. Pourtant, alors qu'elle a longtemps été un domaine de recherche uniquement public, eh bien il y a un nombre croissant d'acteurs privés qui se sont récemment engagés dans le domaine, ce qui va promettre peut-être des réacteurs fonctionnels à des échelles de temps très courtes, et c'est ça qui peut être intéressant. Les avantages potentiels de la fusion sont innombrables. Très faible émission de dioxyde de carbone, pas de déchets radioactifs à haute activité et à vie longue. Alors attention, il y a quand même des déchets à vie courte qui sont tout de même formés, mais quelque part on arriverait mieux à les maîtriser. Un procédé intrinsèquement sûr, car la réaction s'arrête de façon quasi instantanée en cas de problème. C'est-à-dire qu'en clair, un incident du type Tchernobyl ne pourrait pas se produire. Et puis le combustible est très dense et assez abondant pour durer des milliers d'années. Les combustibles peuvent être extraits de l'eau de mer, par exemple. Du côté des inconvénients, eh bien, la fusion nécessite des conditions extrêmes, c'est-à-dire une température supérieure à 100 millions de degrés, notamment. On ne se rend même pas compte de ce que c'est que 100 millions de degrés. C'est 10 fois plus que la température au cœur du Soleil. Vous n'avez qu'à voir, ça donne une idée de ce que l'on doit avoir. Alors, il existe en théorie, différentes méthodes qui vont permettre d'atteindre ces conditions nécessaires à la fusion. Et dans tous les cas, le processus de fusion nécessite de chauffer puis de maintenir un mélange à très haute température. On parle alors de plasma à ce moment-là. Et ça permet donc, ça oblige d'investir de l'énergie. Et le défi du réacteur de fusion est donc de produire plus d'énergie que l'énergie nécessaire à son fonctionnement, bien évidemment. On parle dans ce cas-là de gain d'amplification, mais c'est quand même totalement important. C'est-à-dire qu'il faut qu'on produise quelque part plus d'énergie qu'on en consomme, bien évidemment. Jusqu'à présent, c'était difficile et on produisait plus qu'on dépense. Ce seuil n'était pas atteint. Les recherches actuelles ont permis d'atteindre un gain d'amplification de 0,7. C'est-à-dire que quand on utilisait par exemple 100 joules d'énergie, le principe de fusion en produisait seulement 70. Donc c'est pas encore assez, bien sûr, pour une utilisation pratique. C'est un record qui avait été établi il y a déjà longtemps, il y a 25 ans, en 1997, c'était en Angleterre, et ça avait été égalé l'année dernière aux États-Unis. En réalité, une machine est trop petite et trop peu puissante pour atteindre un gain d'amplification supérieur à 1, c'est-à-dire ce gain d'amplification, le fait qu'on produise plus qu'on en consomme, et pour dépasser ce seuil, il a fallu lancer notamment en 2006 le projet ITER, qui est un projet issu de la collaboration de 35 pays. Il est actuellement en construction à Cadarache, c'est en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et ITER n'a pas vocation à produire de l'électricité, il s'agit simplement d'une pure expérience scientifique et son but, c'est de démontrer la faisabilité de la fusion en visant justement un gain d'amplification qui ne soit pas de 1 mais de 10, c'est-à-dire qu'on produise 10 fois plus qu'on consomme. Et les premières expériences de fusion sont prévues pour 2035, donc c'est pas encore totalement demain. Pour la phase de démonstration industrielle, chaque pays élabore ses propres plans. Alors l'Europe prévoit un réacteur produisant de l'électricité dans les années 2050. La Corée du Sud, le Japon travaillent sur leur propre concept. Ces projets ont en commun des puissances électriques de plusieurs centaines de mégawatts et des productions d'électricité également après 2050. Et donc c'est pour l'instant des solutions qui sont intéressantes, mais qui sont encore à un calendrier assez lointain. Alors il y a d'autres pays qui tentent d'aller plus vite, notamment le Royaume-Uni qui a récemment lancé un projet qui s'appelle STEP qui vise à développer un réacteur en fonctionnement dans les années 2040. Enfin 2040 là encore c'est pas totalement demain. La Chine poursuit un ambitieux programme visant à démontrer la production électrique et de tritium dans les années 2040 également. Et aux États-Unis, un rapport de l'Académie américaine des sciences recommandait de mettre en place un programme visant un réacteur dans les années également 2040. Donc vous voyez, on est toujours à peu près dans le même calendrier, quels que soient les pays. Depuis quelques années, il y a donc des entreprises privées qui sont entrées dans la course et qui visent à fortement accélérer le développement de la fusion nucléaire. Elles vont s'appuyer sur des équipes très qualifiées et ces initiatives ont des approches un peu plus agressive, voire plus audacieuse que la recherche publique. Alors, on va parler dans ces cas-là peut-être plus de start-up. Il y en a certaines qui ont plus de 20 ans, hein, qui ont été créées à la fin des années 90. Et aujourd'hui, on compte plus de 25 entreprises privées lancées dans la course à la fusion, ce qui est 4 fois plus qu'en 2008. Donc, c'est vraiment une course assez récente. Même la France compte une start-up qui a été fondée il y a 3 ans, qui s'appelle Renaissance Fusion. Alors, ces entreprises sont pour la plupart financées par des fonds d'investissement, parfois soutenues par des grands noms. On parle de Jeff Bezos, de Bill Gates. Deux d'entre elles, il y a Elion Energy et Commonwealth Fusion System, qui se sont récemment illustrés en lançant des levées de fonds qui peuvent aller jusqu'à près de 2 milliards de dollars. Le total des investissements cumulés dépasse dorénavant les 4 milliards de dollars, qui est bien loin, bien sûr, du budget national pour la recherche publique des États-Unis. Donc, on voit très bien que l'intérêt du privé, c'est que quelque part on a peut-être un petit peu plus de moyens. Les plannings sont également très ambitieux et c'est ça qui est intéressant. Par exemple, je vous parlais d'Elion Energy. Eh bien, Elion annonce la production dès 2024 de quelques mégawatts électriques. Et la deuxième, hein, Commonwealth Fusion System, vise à démontrer un gain d'amplification supérieur à 2 d'ici 3 ans. Donc c'est quand même aussi assez intéressant. Avec également la commercialisation d'un réacteur dès 2030. Donc là, on a quand même avancé d'une décennie. Des dates qui contrastent bien sûr avec celles qui sont espérées pour les initiatives publiques, où on évoquait 2040-2050, comme je vous l'ai dit. Alors, certaines de ces entreprises aux États-Unis bénéficient de financements plutôt modestes d'un point de vue public. Ça leur permet de collaborer quand même avec des laboratoires nationaux. Mais toutes ces entreprises développent et fabriquent leurs propres expériences et leurs propres composants. Et le nombre de brevets déposés a ainsi fortement augmenté ces dernières années, avec près de 160 brevets détenus par 12 entreprises seulement. C'est quand même assez intéressant. Il y a quelques arguments qui peuvent expliquer la tendance à la multiplication de ces initiatives d'ordre privé. Le fait que ce sont des technologies nouvelles qui sont apparues ou qui sont en cours de développement. Et donc, ça pourrait accélérer le développement de la fusion nucléaire et avoir des applications dans d'autres domaines. Je vous parlais d'ITER, ITER qui est en phase d'assemblage, qui renforce aussi la confiance des investisseurs et des décideurs dans la fusion. C'est-à-dire que pour l'instant, c'est encore une voie prometteuse. Les taux d'intérêt qui sont bas, qui poussent certains investisseurs vers des paris plus risqués, mais potentiellement plus lucratif également. On observe ainsi une forte hausse des investissements dans le domaine des technologies pour le climat. C'est assez récent et on l'observe de façon de plus en plus flagrante. Et puis, dernier argument, c'est bien sûr l'urgence climatique, bien évidemment. Beaucoup de ces entreprises mettent en avant un rôle possible pour la fusion dans la transition énergétique si elle arrive suffisamment tôt. Des promesses à relativiser au vu des temps de développement des technologies, bien évidemment, parce que comme on parle de 2040-2050, pendant ce temps-là, la situation ne s'améliore pas. Bref, ces initiatives privées contribuent à faire émerger une filière et à former des personnes à la fusion nucléaire. Elles ont aussi le mérite de pouvoir un peu secouer la recherche classique en prenant des paris technologiques plus audacieux. Et si les plannings annoncés sont peut-être un petit peu trop optimistes, ils permettront malgré tout de mesurer rapidement les progrès accomplis et de juger enfin si la fusion nucléaire est à portée de main. À voir, bien évidemment, mais c'est vraiment intéressant pour ce sujet de la fusion nucléaire, parce que, comme je l'ai dit assez souvent dans cette émission, l'énergie est donc un vrai défi à relever, et là, la piste de la fusion prend une ampleur assez intéressante, assez récemment, et on va pouvoir suivre dans cette émission les annonces dans ce domaine-là, bien évidemment, au niveau de la fusion nucléaire, bien sûr. Voilà, c'était un sujet que je voulais évoquer, parce que cet article était peut-être un peu long, mais assez intéressant parce qu'il donnait un état des lieux de la situation et notamment l'implication de plus en plus importante des entreprises privées dans ce domaine-là. C'est assez intéressant de suivre également ce domaine sous un œil public-privé, bien évidemment. Et si les collaborations se mettent en place de façon efficace, on pourra peut-être avancer le calendrier de cette technologie qui semble prometteuse. Voilà, on écoute un titre et on continue à développer l'actualité scientifique dans cette émission de Graphite.
Il reste à sa maison comme un con. Devant son écran géant, ses devient en caleçon. Il a tout le boxon qui va avec la chaîne Hi-Fi high-tech. Un truc d'enfer pour faire le cake. De quoi faire péter le son et les plombs du voisin. Mais avec lui, pas question. Il branche juste le caisson pour gober les informations. Il veut de la base.
pour toutes les explosions.
Sinon, quand il veut de l'action, il branche la PlayStation. Il gagne la Ligue des clubs champions sans se bouger le fion.
Il s'abonne à Canal Sat.
Il s'enferme et devient psychopathe.
Il ne pense plus, il ne bouge plus. Monsieur Globule est noctambule, ne déambule que dans sa bulle. Monsieur Globule reste dans son vestibule. Il ne pense plus, il ne bouge plus. Monsieur Globule est noctambule, ne déambule que dans sa bulle. Monsieur Globule reste dans son vestibule.
A-A-D-D-S-L-L. Antidépresseur pour solitaire loser. Quand il se sent trop bête, il se connecte à internet. Ou bien quand il s'ennuie pour y chercher des amis. Puis il passe la nuit sur un jeu pourri à dégommer ses potes, les autres internautes. À la fin de la partie, la nuit est finie. Il a les yeux qui sortent, mais lui,
il reste dans sa grotte.
Des fois, il surfe à la page avec son pote web. Il reste en connexion. Il voyage dans des images. Il ne s'amuse plus, c'est dommage. Des histoires qu'il télécharge.
Il ne pense plus, il ne bouge plus. Monsieur Globule est noctambule, ne déambule que dans sa bulle. Monsieur Globule reste dans son vestibule. Il ne pense plus, il ne bouge plus. Monsieur Globule est noctambule, ne déambule que dans sa bulle. Monsieur Globule reste dans son vestibule.
Allô?
Ouais.
Allô?
C'est qui?
Bah c'est moi, on devait se voir aujourd'hui, donc tu veux on fait un truc?
Franchement, je suis pas abouti.
Bah sinon, je sais pas, on a qu'à aller au...
Non, je crois que je vais rester.
En plus, il fait beau, donc...
Non, parce qu'il y a le machin qui doit passer.
Ah ouais, bon, bah...
Okay. Et en fait, je crois que là...
Ouais.
Je suis à partir de play, et puis...
Bon bah on se retrouve sur le web.
Faut dire que c'est pratique. Le net ça pète pour claquer son fric. Plus besoin de sortir de son appart. Le ciel est bleu, tu sais quand t'as la carte. C'est vrai que ça lui arrive de se faire livrer des pizzas, frites, jambon, magret. Y'a des soirs, ça fait vraiment trop chier. Alors pour se remonter et pour changer, il se fait
un petit plateau télé.
Il ne pense plus, il ne bouge plus. Monsieur Cloporte reste dans sa grotte. Quoi qu'en pensent les autres, Monsieur Cloporte ne dépasse pas la porte. Il ne pense plus, il ne bouge plus. Monsieur Globule est noctambule, ne déambule que dans sa bulle. Monsieur Globule
reste dans son vestibule.
Il ne pense plus, il ne bouge plus. Monsieur Globule ne tombe, ne déambule que dans sa bulle.
Monsieur Globule reste dans son vestibule.
Il ne pense plus, il ne bouge plus.
Monsieur Globule ne tombe, ne déambule que dans sa bulle. Monsieur Globule reste dans son vestibule.
Il ne pense plus, il ne bouge plus. Monsieur Globule ne tombe, ne déambule que dans sa bulle.
Monsieur Globule reste dans son vestibule.
Il ne pense plus, il ne bouge plus.
Monsieur Globule est noctambule, ne déambule que dans sa bulle. Monsieur Globule reste dans ton vestibule.
Monsieur Globule, c'était Monsieur Tristan sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez Biotine tous les samedis entre 12h et 13h et tous les mardis entre 10h et 11h sur l'antenne de Graphite 94.9 et sur graphite.net. Biotine, l'émission d'actualité scientifique. On va continuer à parler cette fois du sang qui circule dans notre corps. Et c'est grâce à lui que les organes, les cellules sont approvisionnés en oxygène, bien évidemment. Et lorsque la circulation du sang est interrompue dans un organe, par exemple le cœur, eh bien les cellules sont privées d'oxygène. Alors celui-ci est absolument indispensable à leur fonctionnement et en son absence, ces cellules meurent. On parle alors, donc dans ce cas-là, de crise cardiaque, on appelle ça un infarctus du myocarde. Plus la privation d'oxygène dure longtemps, plus des dommages sont graves et ils peuvent entraîner la mort du patient. Alors les symptômes les plus fréquents de la crise cardiaque sont les suivants. La douleur thoracique, les sueurs, l'inconfort, les nausées, l'essoufflement, l'étourdissement. Et si les symptômes sont intenses et apparaissent de manière soudaine chez certains patients, eh bien la crise cardiaque peut aussi être très discrète au niveau clinique avec des symptômes peu intense, pas de douleur thoracique, d'où l'intérêt de pouvoir identifier à l'avance les patients les plus à risque de faire une crise cardiaque pour les sensibiliser. Eh bien, ont fait appel aux ophtalmologues qui réalisent fréquemment des scans de la rétine chez leurs patients dans le cadre du diagnostic et du suivi des maladies de l'œil. Et si cet examen de routine non invasif, non douloureux, peu coûteux, eh bien cet examen, s'il pouvait être utilisé pour prédire le risque de crise cardiaque. Il y a une équipe qui a mis au point une intelligence artificielle capable d'interpréter les scans de la rétine. Les analyses se sont focalisées sur certains marqueurs des images rétiniennes comme la densité des vaisseaux sanguins. Et donc, des banques d'images de la rétine ont été utilisées pour entraîner cette intelligence artificielle à côté des marqueurs, et les auteurs ont ensuite analysé a posteriori les crises cardiaques survenues ou non chez chacun des patients, et les résultats sont les suivants. L'intelligence artificielle aurait été capable de détecter le risque de crise cardiaque avec une sensibilité de 74%. Et la sensibilité, ça correspond à la probabilité que le test soit positif quand le sujet est malade. Et ça permet aussi de détecter avec une spécificité de 71%, donc c'est des bons résultats. La spécificité, ça correspond à la probabilité que le test soit négatif lorsque le patient n'est pas malade. Et donc du coup, c'est assez intéressant, ces résultats sont assez prometteurs et performants. En clair, dans à peu près 80% des cas, un individu ayant un fort risque de faire une crise cardiaque aura un test positif comparé à un individu n'ayant pas un fort risque de faire une crise cardiaque. C'est donc un test prédictif, un diagnostic qui est considéré comme utile, bien évidemment, et la mise en place de ce test pourrait sans doute permettre de sauver des vies. Donc voilà, un scan de l'œil pourrait prédire les risques de crise cardiaque. Reste évidemment à confirmer cela et à mettre et à appliquer, à généraliser cela, bien évidemment, mais ça peut être intéressant d'avoir cette façon de lecture également pour pouvoir prédire ce risque de crise cardiaque. Ça, c'était au niveau médecine, là. Alors, j'ai aucune transition, je ne vais même pas aventurer à faire une transition. On va parler plutôt des matériaux, des plastiques, notamment. Alors, les chimistes appellent les plastiques des polymères. Ils sont constitués de chaînes de blocs qui s'enfilent un peu comme on enfile des perles sur un polier. C'est donc en une seule dimension, le plastique. Et parce qu'ils espèrent que la structure lui donnera à la fois légèreté et résistance, eh bien, les chercheurs essaient depuis longtemps de fabriquer un plastique qui se développe en deux dimensions, donc qui pourrait suivre un peu la forme d'une feuille. Alors l'opération, elle est plus que délicate parce que les physiciens ont noté que si un seul monomère, donc une seule bille entre guillemets, pour illustrer, sort du plan de la feuille, eh bien le matériau va se dilater en trois dimensions, et c'est pas ce qu'on recherche. Et donc, on pensait que la chose était totalement impossible. Eh bien, c'est au MIT, le fameux Institut de technologie du Massachusetts, qui présente aujourd'hui un matériau totalement innovant de ce type. C'est un polymère bidimensionnel, donc en deux dimensions, qui s'auto-assemble en feuilles. Et ce matériau, il est plus léger que le plastique. Et il est plus résistant que l'acier. C'est ça qui est intéressant. Il est facile à produire en grande quantité en plus. Et il pourrait servir aussi bien de revêtement pour des pièces de voiture ou des téléphones portables que de matériaux de construction pour des ponts ou d'autres structures également. Donc c'est ça qui est assez intéressant. À la base du matériau, eh bien, on utilise la mélamine, qui est une protéine qui a une structure faite d'azote et de carbone. Et les physiciens justement de ce fameux MIT ont trouvé des conditions dans lesquelles ces monomères, donc ces fameuses billes, peuvent croître en deux dimensions. Et donc ils vont former des disques qui viennent s'empiler les uns sur les autres. L'ensemble est maintenu par des liaisons entre les atomes d'hydrogène, ce qui forme donc une structure stable et une structure solide. Ce mécanisme se produit spontanément en solution, et après avoir synthétisé le matériau, nous pouvons facilement enduire par centrifugation des films minces qui sont de façon extraordinaire totalement résistants. C'est ce qu'explique Michael Strano, qui est chercheur au MIT. Alors, puisque le matériau s'auto-assemble, eh bien, il peut être fabriqué en grande quantité en augmentant simplement la quantité de matière première. Alors, selon les chercheurs, le module d'élasticité du matériau, c'est-à-dire ça donne la force nécessaire à le déformer, est véritablement supérieur à celui du verre par balle. Et sa limite d'élasticité, c'est-à-dire la force nécessaire à le casser, elle est double que celle de l'acier. En clair, il est léger, il est déformable et il est également résistant, beaucoup plus que l'acier. Et c'est totalement un matériau innovant et véritablement prometteur. Une autre caractéristique intéressante de ce matériau, c'est qu'il est conçu, par exemple, comme une brique de Lego. C'est-à-dire que ça laisse des espaces dans lesquels on peut essayer d'infiltrer notamment des gaz. Et cette structure, elle est étroitement imbriquée. Et là, du coup, avec ce nouveau matériau, on va pouvoir la rendre totalement imperméable au gaz. Ce qui permettrait justement d'avoir à fabriquer des revêtements ultra fins, vraiment légers, qui viendraient constituer des barrières totalement infranchissables, aussi bien pour les gaz que pour l'eau. On voit les applications qui peuvent être vraiment intéressantes avec ce matériau, parce que s'il est imperméable, léger et résistant, mon Dieu, on va pouvoir le développer à grande échelle. Alors, il y a d'autres formulations moléculaires qui sont en cours de test, ce qui permettrait d'avoir des nouveaux types de matériaux, mais en tout cas, ce matériau est véritablement bluffant, et on suivra bien sûr la suite de la construction de ce matériau spécifique, parce que franchement, là, un matériau plus léger que le plastique, plus résistant que l'acier et imperméable, c'est assez prometteur et totalement inédit. Vous pouvez regarder à quoi il ressemble. Il ne ressemble pas grand-chose, objectivement, parce que pour l'instant, on en est dans un stade de prototype. Mais sur Internet, vous pouvez trouver, bien évidemment, notamment sur le site Internet du MIT, si vous êtes curieux. Allez, on écoute les filles d'Angleterre sur l'antenne de Graphite.
Puisque je te dis qu'elles baissent les Anglais, c'est connu. Écoute, Alain, j'irai pas te raconter des salades. Là-bas, on n'aura qu'à lever le petit doigt, je te dis.
Hey girl, les Anglais disent I love you. Hey girl, les Anglais disent I need you. Mais ils ne savent pas dire je t'aime comme nous. Ils préfèrent dire yeah yeah. Les Anglais disent I want you. Hey girl. Les Anglais disent I kiss you. Mais ils ne savent pas dire l'amour comme nous. Ils préfèrent dire hello girl. They love me. I'm John Lennon. They love me. Chelsea. Ici, il y a ce bon vieux Eddie qui vous apprendra toutes les ficelles d'un French kiss à Paris. We'll be right back.
Et puis à la sortie, crack.
Crack, what does that mean?
Oh, it's nothing, my darling. It's typical French.
Les filles d'Angleterre, c'était The Rebels of Tijuana sur l'antenne de Graphite. Alors justement, qu'est-ce que vos goûts musicaux vont révéler de votre personnalité ? C'est cet article qu'on va évoquer dans cette émission Biotine sur l'antenne de Graphite. La musique est le langage universel de l'humanité. Cette phrase célèbre attribuée au poète américain du 19e siècle, Henry Wadsworth Longfellow, je vais y arriver, c'est une belle tournure qui devient au fil de la recherche une réalité scientifique. Il y a une étude qui a été menée par David Greenberg, un neuroscientifique et musicien. Il a travaillé avec ses collègues de l'université de Cambridge qui semble justement confirmer cette maxime. Hein. Je rappelle, la musique est le langage universel de l'humanité. L'étude conclut que les préférences musicales rassemblent des individus sous les mêmes traits de personnalité, quelle que soit leur nationalité. Nous avons été surpris de voir à quel point les schémas entre musique et personnalité sont reproductibles à travers le monde. Les gens peuvent être divisés par la géographie, la langue et la culture. Mais si un introverti dans une partie du monde aime la même musique que les introvertis ailleurs, cela suggère que la musique pourrait être un pont très puissant. La musique aide les gens à se comprendre et à trouver un terrain d'entente. C'est ce qu'a déclaré David Greenberg. Alors les scientifiques ont fait écouter différents styles de musique occidentale à 350 000 personnes vivant dans 53 pays différents sur les 6 continents. Alors c'est ça qui est intéressant dans cette étude, c'est que là on est quand même sur un panel assez large de personnes qui ont participé. Et ces personnes, elles ont rempli un questionnaire standard de personnalité dans lequel elles s'auto-évaluaient sur 5 traits centraux: l'ouverture, la conscience, l'amabilité, le névrotisme, l'extraversion. Et il y a eu 23 genres musicaux qui ont été soumis à tous les participants, qui ont été classés en 5 catégories. Douce, alors on va plutôt être dans la soft pop ou le R&B. Musique simple, comme la country. Complexe, qui va être plutôt la musique classique, le jazz. Intense, là on va être plutôt dans du rock, voire du métal. Et moderne, comme la pop ou le rap. Et donc les traits de la personnalité sont corrélés aux goûts musicaux. Les scientifiques ont pu prédire que l'extraversion est associée à l'écoute de musique moderne avec des rythmes entraînants et dansants. De l'autre côté du spectre, eh bien, des personnes se définissant comme très consciencieuses n'apprécient pas le rock ou le métal. Dans le cas des individus névrotiques, eh bien là, c'est un petit peu plus nuancé. Le chercheur David Greenberg explique: nous pensions que le névrotisme aurait probablement suivi l'une des deux voies suivantes, soit préférer la musique triste pour exprimer leur solitude, soit préférer la musique entraînante pour changer leur humeur. En fait, en moyenne, ils semblent préférer des styles musicaux plus intenses, ce qui reflète peut-être une angoisse ou une frustration intérieure. Okay. Ces observations ne varient presque pas en fonction de la nationalité des personnes, mais aussi de leur genre, leur âge ou d'autres facteurs socio-économiques, c'est ça qui est intéressant. La personnalité humaine est complexe et ne se résume pas à un trait de caractère principal. Bien évidemment, nos goûts musicaux évoluent aussi. Les observations faites ici, qui sont des moyennes, sont un premier pas dans l'analyse des liens entre personnalité et musique. Elle sera finalement peut-être un petit peu plus affinée dans les prochaines études. Et les frontières, la langue, la couleur de peau peuvent séparer les humains. Et bien la musique semble les rassembler. Mais voilà, c'est assez intéressant, même si on est quand même sur une analyse un petit peu générale. On est sur un panel assez intéressant, enfin assez important justement pour cette étude, qui montre justement une certaine corrélation entre un trait de caractère et une certaine musique. Je ne sais pas, voilà. Mais en tout cas, comme on venait d'écouter The Rebels of Tijuana, je me demandais si finalement, dans quelle catégorie on pouvait se trouver, si on appréciait ce genre de musique. Autre sujet, aucune transition avec cette fois encore un article au niveau de la médecine et au niveau de l'alcoolisme. On estime que 10% des Français consomment de l'alcool tous les jours. Et si pour la majorité d'entre eux, cette consommation n'est pas jugée pathologique, d'autres souffrent d'une dépendance aux boissons alcoolisées, on le sait. Le traitement de cette addiction est à la fois psychologique, mais ça peut être aussi un traitement médicamenteux. Et dans le cas de la dépendance à l'alcool, les médicaments sont destinés à limiter ou à décourager la prise d'alcool. Il y a une poignée de molécules qui sont commercialisées, par exemple le baclofène, le naltrexone. Eh bien, il existe un groupe international de chercheurs qui ont voulu essayer de travailler et de comprendre un petit peu mieux les effets d'une hormone qui s'appelle le FGF21. C'est le facteur de croissance des fibroblastes. Et ils ont voulu avoir un petit peu des informations sur les effets de cette hormone sur la consommation d'alcool. Et après des résultats jugés prometteurs chez la souris, les scientifiques ont testé cette hormone chez des primates dépendants à l'alcool. Cette hormone, elle est synthétisée par le foie et elle agit dans le cerveau pour réguler ce qu'on appelle l'homéostasie énergétique. Alors récemment, son rôle dans la régulation de la consommation d'alcool a été mis en avant parce qu'on s'est rendu compte que dans le gène qui code pour cette hormone, eh bien, c'était associé à certains éléments qui étaient liés à une consommation d'alcool accrue. Et donc, les scientifiques ont administré une molécule analogue à cette hormone à plusieurs singes très dépendants à l'alcool, et le traitement a permis de réduire de moitié leur prise d'alcool en comparaison à des animaux pour lesquels on n'avait pas traité, donc en tout cas on n'avait pas donné cette hormone. Donc on constate vraiment une vraie différence entre les deux groupes. Les singes ont d'abord reçu une dose de 1 mg par kilo pendant 8 jours, puis on a doublé pendant les 8 jours suivants, et les effets positifs du traitement sur la prise d'alcool sont apparus à partir du 5e jour. Et donc l'action de cette hormone FGF21 dans le cerveau, elle reste mal connue pour l'instant, mais le travail des scientifiques offre un premier aperçu. On se rend compte que cette hormone agirait sur un groupe de neurones présents dans une région interne du cerveau qu'on appelle l'amygdale basolatérale, et l'excitation de ces neurones par cette hormone réduirait l'envie de consommer de l'alcool. Alors attention, avant évidemment d'envisager cette hormone comme traitement contre l'alcoolisme, il faudra comprendre un petit peu mieux son mécanisme d'action dans le cerveau avant évidemment, et puis ensuite peut-être mettre en place une phase de test clinique chez l'homme. Mais en tout cas, ça donne une piste assez intéressante pour traiter l'alcoolisme, avec donc cette découverte de ce groupe international de chercheurs qui a testé donc une hormone pour réduire la prise d'alcool. Ça augure donc de futurs essais pour les humains, et on aura peut-être l'occasion de revenir sur ce sujet ultérieurement, bien évidemment. Allez, on écoute Lisa Lelund sur l'antenne de Graphite, et on se retrouve juste après. Vous écoutez Biotine sur Graphite 94.9 et graphite.net.
I decided that I wasn't gonna show you this side of the moon, the one that sees the wolf angry and my tears drop. I wasn't gonna stop. You'll ask why it is. Would you have been happy there? Why wouldn't I share this piece of our lives that we made? It's okay. Never be as sorry as I am. It's okay, you can blame. I decided that I wasn't gonna show. The one that came. this piece of your life that we made. It's okay, you can blame. You'll never be as sorry as I am. It's okay, you can blame.
This side of the moon, ce côté de la lune, Lisa Lindlund, c'était doux, ça faisait du bien, je sais pas. Ça faisait envie. Alors du coup, on va peut-être parler d'une information un petit peu plus réjouissante. C'est encore parler du réchauffement climatique, mais là, c'est plutôt dans le bon sens. En tout cas, ça, c'est une information qui intrigue pas mal les scientifiques. On va parler de l'Arctique. Au niveau de l'Arctique, la glace fond, on le sait, sur Terre comme en mer. Mais le résultat du réchauffement climatique anthropique, justement, et la cause, j'y arrive, excusez-moi, je reprends ma phrase, parce que vous n'allez rien comprendre à ce que je vais expliquer par la suite. Au niveau de l'Arctique, le réchauffement climatique agit et ça fait fondre la glace, que ce soit sur Terre comme en mer. Mais, au grand étonnement de tous, et ça défie un peu les modèles climatiques, eh bien les choses ne sont pas aussi simples de l'autre côté du monde, en Antarctique. Alors, il y a quand même des fluctuations qui apparaissent de plus en plus marquées depuis une dizaine d'années. Il n'empêche que l'étendue de la glace de mer semble vouloir demeurer inchangée depuis une quarantaine d'années. Depuis environ 1979, c'est un peu le début des observations satellites. C'est un paradoxe qui préoccupe la communauté scientifique depuis un certain temps maintenant. C'est ce qu'explique Thomas Racco, chercheur à l'Institut Alfred Wegener en Allemagne, on n'arrive pas à comprendre, un élément clé semble manquer, dit-il. Il y a donc des travaux qui viennent d'être publiés qui pourraient un petit peu révéler quel est cet élément manquant. Les chercheurs se sont appuyés sur un modèle climatique qui permet de simuler certaines régions considérées comme clés avec beaucoup plus de détails que les autres modèles, et du coup, il donne notamment des réponses sur les processus en cours dans l'océan austral. Et après avoir testé une large gamme de configurations, il est apparu que seules les simulations qui intègrent une grande précision sur cette région du monde reproduisent une perte de glace de mer retardée telle que celle qu'observent les chercheurs en Antarctique. C'est-à-dire que lorsque nous avons ensuite étendu le modèle à l'avenir, même dans un scénario très défavorable, la couverture de glace de mer antarctique reste largement stable jusqu'au milieu du siècle. Alors après, la banquise, elle recule assez rapidement, comme la banquise du Arctique, bien sûr. Mais en tout cas, on essaye de comprendre, et pour expliquer ce phénomène de retard, des chercheurs envisagent que l'eau de fonte supplémentaire de l'Antarctique stabilise la colonne d'eau et donc aussi la glace en protégeant les eaux de surface froide par rapport aux eaux profondes qui sont beaucoup plus chaudes. Et il y a une autre théorie qui suggère que les vents d'ouest qui soufflent autour de l'Antarctique sont renforcés par le réchauffement climatique et ils pourraient étaler la glace de sorte qu'elle couvre une plus grande surface. Ainsi, alors que le volume de glace pourrait déjà diminuer, l'étendue de la banquise donnerait une illusion de stabilité. Selon les chercheurs de l'Institut, donc Alfred Wegener en Allemagne, il y a des tourbillons océaniques qui pourraient en réalité jouer un rôle majeur. Ces tourbillons, ils auraient pour effet de transporter vers l'équateur, et donc plutôt que vers l'Antarctique, ça va aller vers l'équateur, la chaleur qui va être en excédent dans l'atmosphère. Résultat, l'océan qui entoure l'Antarctique se réchauffe plus lentement et donc la glace de mer se maintient. Un effet qui ne se voit pas dans les modèles climatiques à basse résolution, mais donc là on est dans un processus de simulation un peu plus fin, on va dire. Et donc notre étude, explique Thomas Racco, notre étude soutient l'hypothèse selon laquelle les modèles climatiques et les projections pour la banquise antarctique seront beaucoup plus fiables dès qu'ils seront capables de simuler de manière réaliste un océan à haute résolution avec notamment des tourbillons, c'est ça qui est intéressant. Grâce aux performances toujours croissantes des supercalculateurs et des nouveaux modèles qui sont en train d'être développés, cela devrait devenir une tâche routinière, dit-il. Mais en tout cas, voilà, il y a des tourbillons dans l'océan qui empêchent la banquise de fondre en tout cas pour l'instant. Et c'est assez intéressant parce que du coup, là, on est en général dans ce sujet-là, dans une vision un petit peu de catastrophe, ce qui est totalement normal et évident. Là, on est pour l'instant sur un répit au niveau de l'Antarctique et on a pu le comprendre grâce à des logiciels de simulation beaucoup plus affinés. Et comme ces logiciels, ces modèles vont être de plus en plus fins et performants, on aura une vision beaucoup plus fine quand on fera des simulations sur le long terme pour voir l'évolution climatique sur l'ensemble de la planète, bien évidemment. Mais je trouvais intéressant que parmi ce flot d'informations un petit peu pessimistes dans ce domaine-là, on ait pour l'instant un répit, donc une information plutôt optimiste. On écoute juste un dernier titre avant de nous quitter sur l'antenne de Graphite. À tout de suite. Idiot, c'était Joe Edine et Jean Felsine sur l'antenne de Graphite. Très sympa, ça. Avant de se quitter, rapidement, une dernière information. Médecine, là encore, et c'est assez intéressant. Beaucoup d'amphibiens sont capables, on le sait, de régénérer un membre perdu avant leur métamorphose. Et une fois les animaux adultes, eh bien, cette capacité décline fortement. Alors, pour les scientifiques, Comprendre les mécanismes biologiques derrière la régénération des membres est la première étape avant une éventuelle application en médecine humaine. Des personnes amputées à la suite d'un accident ou les diabétiques qui sont sujets à la nécrose des extrémités pourraient alors voir leurs membres tout simplement repoussés. Alors aujourd'hui, bien sûr, ça tient de la science-fiction plus que de la réalité, mais les chercheurs travaillent activement sur ce sujet passionnant. Et donc, le département de biologie de l'université de Tufts, c'est du côté de Boston aux États-Unis, ce département a accueilli pendant plus d'un an une centaine de xénopes femelles adultes. Ce sont des petites grenouilles qui sont fréquemment étudiées en biologie du développement. Les amphibiens ont testé un traitement unique en son genre. C'est un cocktail de 5 molécules qui ont été prises et qui a déclenché la régénération quasi parfaite de leurs pattes qui étaient amputées. Et les détails de cette expérience ont été publiés dans la revue Science Advances. Les animaux ont été amputés d'une de leurs pattes arrière sous anesthésie générale et dans la foulée, les scientifiques ont appliqué au niveau de la cicatrice une espèce de gel constitué de protéines de soie qui contenait donc ces 5 molécules régénératives. Ces molécules participent à la croissance des vaisseaux sanguins, des nerfs et des tissus et puis aussi des molécules qui sont dans un principe anti-inflammatoire. Et donc cette préparation, cette espèce de gel reste en contact avec la plaie pendant 24 heures avant d'être retirée sous anesthésie. Et donc les grenouilles ont été ainsi observées pendant 18 mois sans autre intervention. Et petit à petit, les scientifiques ont observé la régénération de la patte amputée chez les animaux soumis au traitement. Et au bout de 2 semaines seulement, les bénéfices du traitement apparaissaient déjà. Et à partir de 9 mois, la régénération s'accélère jusqu'à la fin du suivi à 18 mois en tout. Les 3/4 des grenouilles traitées présente un membre nouvellement formé à la structure aussi complexe que le membre de départ, avec la présence de vaisseaux sanguins, de tissus osseux et de nerfs fonctionnels. C'est-à-dire que bien qu'atrophié, bien le membre régénéré semble fonctionnel et permet aux grenouilles de retrouver en partie leur mobilité. Alors, si le cocktail de ces molécules régénératives apparaît comme efficace chez les grenouilles, rien n'est moins sûr, bien sûr, chez les mammifères et encore moins chez l'être humain, bien évidemment. Actuellement, il est impossible, bien sûr, de savoir s'il est possible de régénérer un membre de la taille de celui d'un humain avec cette technique. C'est une première étape. Et par la suite, on va tester cette solution sur des souris de laboratoire. Mais en tout cas, voilà, c'est une piste assez prometteuse qui est de faire repousser la patte du grenouille. C'est maintenant possible et on pourra voir un petit peu les applications par la suite. C'est ça, Biotine, c'est l'actualité scientifique réjouissante et optimiste parfois. Et je voulais terminer avec cette bonne nouvelle. Bien évidemment, c'est la fin de cette émission. On se retrouve samedi prochain pour une nouvelle émission de Biotine, le samedi entre 12h et 13h. Et la diffusion de cette émission mardi prochain à 10h. Je vous souhaite de passer une bonne journée. Vous restez fidèles à l'ensemble des émissions de Graphite. Vous avez la possibilité de pouvoir récupérer tous les podcasts, bien sûr, sur graphite.net. Bonne journée, à bientôt. Merci. Au revoir.